Darwin à la plage. L'évolution dans un transat. De Jean-Baptiste de Panafieux. Lu par Christophe Brault. Lors de ses expéditions en Patagonie, Darwin découvre les squelettes fossiles d'énormes animaux, des glyptodontes et des mégathériums. Malgré leur grande taille, ces espèces disparues ont des points communs anatomiques avec des animaux vivants, les tatous et les paresseux. Le jeune naturaliste est étonné par la proximité géographique de ces espèces, fossiles ou actuelles, alors qu'elles sont inconnues partout ailleurs dans le monde. Cela pourrait évoquer un lien de parenté, si l'on admet que les espèces se transforment au cours du temps. Ses voyages dans les Andes le poussent aussi à adopter les vues de l'aïeul sur la durée des phénomènes géologiques. Confronté à l'immensité des paysages de l'Amérique du Sud, il réalise qu'il faut des millions, voire des centaines de millions d'années pour la formation des montagnes comme pour leur érosion. Dans l'archipel des Galapagos, au large de l'équateur, Darwin prend conscience d'une autre bizarrerie. Chaque île semble posséder ses propres espèces. La faune est assez pauvre, ce qui est normal pour des îles volcaniques situées à 500 miles du continent et que les animaux n'ont pu atteindre facilement. On y trouve pourtant des tortues géantes et plusieurs types d'oiseaux. Les tortues, apparentées à la tortue de Chaco d'Amérique du Sud, ont pu franchir l'océan en nageant. Elles flottent bien, sont capables de se passer longtemps d'eau douce et de nourriture, et les courants marins vont dans la bonne direction. Quant aux oiseaux, ils descendent sans doute de couples entraînés au large par des tempêtes. Mais pourquoi cette faune réduite compte-t-elle une quinzaine de pinsons? En réalité, des géospises, anatomiquement très voisins. Trois espèces d'oiseaux moqueurs et trois tortues différentes. Darwin s'étonne. La distribution des habitants de cet archipel serait loin d'être aussi étonnante si une île, par exemple, possédait un oiseau moqueur et une autre île, un oiseau appartenant à un genre tout à fait distinct. Si une île possédait un genre de lézard et une seconde île un autre genre distinct, ou n'en possédait pas du tout. Et de conclure, il était évident que ces faits ne pouvait s'expliquer que par la supposition que les espèces se modifient graduellement. Autrement dit, ce phénomène n'est compréhensible que si l'on s'imagine que les espèces similaires dérivent d'un ancêtre commun. Mais Darwin n'a pas encore accompli le chemin intellectuel nécessaire pour envisager cette évolution, à tel point qu'il ne prend pas vraiment garde à noter avec précision l'origine géographique de chaque espèce. L'élaboration de la théorie. À son retour en 1836, il s'attelle à la rédaction et à la publication du compte-rendu de ses observations géologiques, zoologiques et botaniques. Ce travail gigantesque va l'occuper de 1838 à 1846. Son journal de recherche, surnommé « Voyage du Beagle », paraît en 1839 et obtient un grand succès public. Il ne sera traduit en français qu'en 1875 sous le titre « Voyage d'un naturaliste autour du monde ». De même, son livre sur la formation des récifs coralliens, publié en 1842, est très bien accueilli. Entre-temps, en 1839, il a épousé sa cousine Emma Wedgwood. Il s'installe dans une maison à Down, au nord de Londres, où ils élèveront leurs 10 enfants. Dès 1837, Darwin commence à noter ses réflexions dans un carnet intitulé « Transmutation des espèces », où il s'interroge sur d'éventuelles transformations des espèces qui pourraient expliquer ses observations. Il accumule les informations sur les variations des animaux et des plantes, c'est-à-dire sur la diversité que l'on peut observer au sein d'une même espèce. Il ne voyage plus, mais correspond avec des éleveurs, des horticulteurs et des naturalistes du monde entier.